Sono solo canzonette, ce ne sont que des chansonnettes.
Une émission de l'INIS sur l'histoire de la chanson italienne, présentée par
Jean Guichard,
Françoise Gibaja,
Angelo Sollima.
Bonsoir Françoise, bonsoir Angelo,
bonsoir Jean,
bonsoir William,
bonsoir William,
bonsoir.
Voilà, nous consacrons notre émission aujourd'hui à Luigi Tenco, parce que on a célébré cette année le 50e anniversaire de sa mort en 1967. Au festival de San Remo. Alors, on parlera de sa mort tout à l'heure, peut-être on en dira deux mots, mais ce qu'il faut dire, c'est que quand Tenco est mort, il était peu connu.
Même en Italie ?
Même en Italie, il était. Et c'est pour ça qu'il était. Bon, Gino Paoli était jaloux de lui pour son succès auprès des filles. Mais
en tant que chanteur, il n'était pas très.
Non, il était peu diffusé en 1967. Et c'était la première fois qu'il allait au Festival de San Remo, contre sa volonté d'ailleurs. Il avait été poussé par son producteur et par Dalida. Mais ce qui est intéressant, c'est que après sa mort, on s'aperçoit que c'était
un génie.
Un grand
cantautore. Il y a, j'ai sous les yeux là, un livre de Marco Santoro qui s'appelle Effetto Tenco. Effet Tenco. Et effectivement, Tenco n'était pas très très connu. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui était à la mode dans les années 67 ? C'était d'une part
le rock, la
chansonnette. Oui, c'était le rock. Le rock commençait et c'était pas un véritable rocker.
Jazz, lui jouait
le jazz.
C'était plus le jazz que le rock, lui, oui, bien sûr. Et puis, qu'est-ce qui était à la mode ? C'était la chansonnette de San Remo, déjà. La chanson d'amour
traditionnelle.
Sans contenu, langoureuse, la main dans la main au clair de lune, alors que c'était autre chose.
Et la danse sous le carreau.
Et qu'est-ce qui était à la mode ? C'était la chanson politique. Or, Tenco était politiquement très, très averti, mais ce n'était pas un chanteur politique. Il n'a pas fait de grandes chansons de politique comme ceux de Canta Crona, che la Moleille, ou ceux du Nouveau Canzoniere Italien, à la même époque, dans les années 65, 67. Et donc c'était d'autres chanteurs qui passaient à la première place. Et puis on s'aperçoit, alors qu'il était politiquement très sensible, il était très proche des socialistes, très proche des communistes, mais il avait adhéré au Parti Socialiste. Il avait une carte du Parti Socialiste.
Était inscrit au Parti Socialiste.
Qu'on a retrouvé après sa mort. Mais il était très beaucoup plus proche du Parti Communiste, ce qui était paradoxal. Il était très sensible aux événements de son époque. On raconte qu'il a éclaté en sanglots pendant qu'il était sur un plateau, quand il a appris le bombardement américain au Vietnam, par exemple. Mais ce n'était pas un chanteur politique. Il ne faisait pas des chansons de
engagées, comme
beaucoup d'autres. Donc il était moins connu. Et puis, c'était un timide. Il n'aimait pas chanter en public. Donc il chantait dans des petits groupes. Qu'il adorait. Il avait des quantités de fans dans ses petits groupes, mais c'est pas le grand public comme en avait Dalida, dont on reparlera par ailleurs.
Oui, il aimait pas remplir les salles, quoi.
Non, et quand il est allé à San Remo en 67, au dernier moment, il était dans les coulisses et il voulait pas entrer sur la scène. Il a fallu que son producteur le pousse sur la scène. Il voulait pas chanter. Et il avait absorbé une bouteille entière d'alcool avant de rentrer sur le plateau. Il était paniqué à l'idée de chanter devant un public de 2000 personnes comme il y a au festival de San Remo. Mais on s'aperçoit qu'il a révolutionné la chanson. Et on s'en aperçoit après.
Et oui.
Et aujourd'hui, il y a des quantités de chanteurs qui reprennent ces chansons, qui les réinterprètent. On s'aperçoit qu'il a quand même, il avait été un des chanteurs du Déserteur de Boris Vian, dont il a fait plusieurs traductions, et il adorait Boris Vian. Et donc, on découvre Tenco après, on s'aperçoit après sa mort,
à titre posthume,
qu'il a été un chanteur révolutionnaire, qu'il a transformé la chanson, entre autres la chanson d'amour.
Alors, mais même beaucoup de chansons écrites par lui, ils sont sortis post-mortem. Ça veut dire après la mort, parce qu'il le tenait, il ne sortait pas, il ne sortait pas ses chansons.
Oui, on a réédité après sa mort quelques chansons qu'il avait enregistrées, mais il y a
des chansons que, disons, il a sorties sous un premier nom.
Ah, ben ça, c'est ses premières chansons.
Voilà, sous Gigi, après ça a été
Gigi
Mai, après ça a été Tenco, après le dernier, ça a été Luigi Tenco. Et ce qu'il a consacré à la chanson, c'est les dernières 4-5 ans. Et là, ça a commencé.
Oui, alors qu'il chantait depuis 8 ans.
Oui, mais.
Et qu'il avait écrit des chansons.
Et se reprochait beaucoup de choses. Se reprochait surtout. Dans les chansons, on le sent qu'est-ce que c'était qu'il n'allait pas.
Et puis c'était un homme extrêmement tourmenté.
Oui.
Voilà. Donnez-nous deux ou trois dates quand même de sa vie.
D'abord 1938, puisque c'est l'année de sa naissance. Hein, il est né à Cassine. Donc, Cassine, c'est dans la province d'Alexandrie.
Alessandria,
en Italie.
À Ricaldone aussi, parce qu'ils sont à côté. Et Ricaldone, c'est là où il habitait la famille de Tenco, aussi à la famille.
Mais sa famille avait déménagé à Gênes quand il avait une dizaine d'années.
Peu après, oui, là. Oui. Et c'est ça, pour lui, ça a été un peu un trauma. Ça veut dire, il a abandonné le lieu de naissance, pas volontairement, mais il a suivi sa mère et son frère, parce qu'il avait un frère majeur.
Oui, Valentino. Oui.
Valentino.
Un frère aîné, oui.
Donc. Oui, mais son papa est mort. Avant sa naissance.
Avant sa naissance.
Eh oui, donc il n'a jamais connu son père. Et
qui n'était pas son père biologique.
Voilà, que certains affirment que son père n'était pas son père.
Non, c'est sûr.
C'est affirmé.
Mais personne ne donne le nom de son vrai père, qui était une personnalité de l'époque, mais.
Ouais. Il s'appelait. Il vient de la famille Mika.
Mais on ne donne pas son nom, en fait. Son vrai nom, non?
C'est Ferdinand.
Oui, mais son vrai nom, il n'a jamais voulu le.
Et sur une autre.
Il n'a jamais voulu le dévoiler, quoi.
Et l'écrit.
Tenco.
Le Tenco, c'est le nom de son père.
Ah ben,
le nom, c'est le nom du mari à sa femme.
Et voilà.
À sa mère.
Son père officiel.
Voilà. Son père officiel.
Oui, oui.
Voilà. Ouais. Voilà. Et donc, il passe sa première enfance. Dans cette région, là, entre Cassine et Ricaldone, c'était la région originaire de sa mère. Et c'est en 48, donc il avait
10 ans,
oui, puisqu'il est né en 38. Sa mère et puis ses deux fils se déplacent en Ligurie. D'abord à Nervi et ensuite à Gênes. Donc Nervi, c'est
la banlieue de Gênes.
Voilà. Sur la côte ligure. Ouais.
Voilà, où sa mère trouve un travail, un commerce de vin. Et il fréquente le lycée classique et puis le lycée scientifique, où il a de bons résultats, en fait. Parce que c'est quand même un garçon intelligent.
Ah, c'était un élève extrêmement brillant.
Oui.
Sa mère rêvait qu'il soit avocat, d'ailleurs.
Oui,
c'est un enfant prodige. Parce, ah, que, oui, oui. parce ah, oui. que déjà, on dit qu'à 3 ans, il écrivait et il oui. lisait.
Alors ça, c'est un peu la légende, mais...
Mais il y a une autre...
Il était très brillant. En
fait. Il y a autre chose, quand la mère, parce que la mère, elle voulait le fournir plus d'atouts à son fils, il a envoyé auprès d'une une professeure
pour apprendre
le piano.
Oui. Mm-hmm.
Ben, le professeur s'aperçut que lui, Tenko, il a fait en 3 mois, c'est que la prof... Pour elle, elle avait fait en 4 ans.
En 4 ans. Mm-hmm. Et lui, en 4 mois, il a fait ce qu'elle a fait en 4 ans. C'était oui. une professeure.
Ah ben oui, il y a des petits génies de toute façon.
Il était très brillant.
Oui, oui, oui. oui.
Voir les instruments aussi qu'il jouait. Il, jouait oui. Il a commencé avec la clarinette. Après, il est passé au sax.
Il est passé au saxophone.
Oui. Après, il est passé à la guitare et au piano.
Oui.
Il avait des facilités, oui. Bien sûr, des prédispositions.
C'était un musicien qui a révolutionné aussi la musique de la chanson. Quand les musicologues, après coup, ont analysé ses partitions, ils se sont dit, mais c'est complètement nouveau par rapport à ce qui se faisait habituellement, quoi, à l'époque.
Mm-hmm. Ouais. Et oui. Et donc, en 1953... Il crée un groupe musical qui s'appelle le Jerry Roll Boys Jazz Band.
Jazz Band.
Jazz Band. Donc lui, c'est là qu'il joue de la clarinette. Et peu de temps après, il crée I Diavoli del Rock, dont fait partie Gino Paoli.
Mm-hmm.
Donc, il s'inscrit à la faculté d'ingénierie, puis à celle de Sciences Po. C'est vrai que c'est quand même des niveaux assez... C'est bon, hein.
Mais oui. Il terminera jamais.
Il finira pas.
Non. Il arrête au bout d'1 an.
Ah oui.
Il veut faire de la musique.
Oui, c'est ça. C'est...
Et c'est vrai, parce que finalement, il crée des groupes. C'est dur quand même de mener des études comme ça, parallèle avec...
Oui. Surtout qu'il faisait des concerts de temps en temps.
Ben, oui.
Toujours avec les vieux copains d'école. Hein.
Ouais,
parce
oui.
qu'il était Gino Paoli, il avait aussi...
Mario De Sanctis, hein, non
oui.
Oui.
oui. Il jouera avec Iannacci aussi.
Mais avec Iannacci et...
Ils étaient amis.
Oui, ils sont fait un groupe, ils sont accompagnés. Oui, oui. Même si je me rappelle bien, Celentano en Allemagne pour présenter.
Oui, il était très actif musicalement. Il a jamais voyagé ailleurs. Hein. Il a jamais quitté l'Italie en fait.
Ah oui.
Sauf une ou deux fois.
À Rome.
Ah oui, mais c'était en Italie.
Oui. Il a eu aussi des problèmes.
Eh oui, et puis il commence ses débuts discographiques en 59 avec un groupe qui s'appelle Les Cavaliers.
I Cavalieri.
Ah oui.
Oui.
Voilà, I Cavalieri, donc Les Cavaliers, dont font partie plusieurs musiciens ouais. et entre autres Iannacci là, Enzo Iannacci.
Iannacci, eh oui.
Et ils enregistrent le premier 45 tours qui s'appelle Mai. C'est à cette époque que Luigi Tenco adopte le pseudonyme de Gigi
Mai.
C'est marrant. Gigi, ça là, jamais.
Gigi, jamais. Mai.
Mai.
Voilà. Et il sort son premier disque solo. Donc, il se sort du groupe, en fait. Et sous son vrai nom. De Luigi Tenco en 1961. Donc c'est 1 an après, en fait.
Oui.
Puis, finalement, la durée de ces groupes est assez brève. Hein.
Mais ils ne sont.
Oui,
parce ont changé 3-4.
Ce n'étaient pas des professionnels.
Même,
hein. Voilà.
C'était toujours le même.
Oui, il faisait ça en tant qu'amateur.
Oui, bien sûr.
Et à l'époque, il avait Gino Paoli qui il sortait un peu du groupe parce que c'était un peu plus connu. Mais après, tout de suite après, lui, il a devancé un peu. Quand il s'est mis un peu avec sa tête, parce qu'il avait deux problèmes, lui. Quelqu'un, il avait dit à un moment donné, encore jeune, il avait dit, ton père, c'est pas ton père. Ton père, c'est...
Oui, ça l'avait un peu...
Et ça l'a traumatisé.
C'est pas évident.
Oui. Et
ça crée des...
Il était jeune.
Psychologiquement, oui, ça crée
mais
des
problèmes. Mais ça l'a beaucoup rapproché de sa mère, par contre.
Oui.
Parce qu'il n'a jamais reproché à sa mère d'avoir trahi son père officiel qu'il n'a pas connu.
Il l'a toujours aimé pour dire sa mère l'a toujours aidé.
Et oui,
toujours.
Et l'autre, ça a été quand il s'éloignait de Ricaldone. Ça, c'est deux traumas, je peux dire, pour lui.
Deux traumatismes.
Voilà, deux traumatismes qu'il a reçu.
Et puis on arrive à ses premières chansons très connues. On va en écouter une. C'est Angela, qui est de 1962.
Oui.
Et quand on la relit aujourd'hui, Angela, Angela, mon ange, je ne croyais pas que ce soir, ça aurait été vraiment un adieu. Angela, crois-moi, je ne voulais pas. Quand je t'ai dit que je veux m'en aller, je voulais seulement te voir pleurer, parce que j'aime te faire souffrir. Je voulais te faire pleurer, voir tes larmes, entendre que ton cœur est dans mes mains. Mais ce soir, au lieu de pleurer, tu regardes mon visage d'une façon étrange, comme s'il était désormais lointain. Je t'en prie, Angela, non, ne t'en va pas. Tu ne peux pas me laisser ici-bas tout seul. Il n'est pas possible que tout d'un coup je puisse te perdre tout. Je ne croyais pas que ce soir, ça aurait été vraiment un adieu. Angela, crois-moi, je ne voulais pas. Non, non, ne t'en va pas. Et c'est intéressant parce que à la fois, il voulait la faire souffrir, il voulait la voir pleurer, mais il ne pouvait pas se passer d'elle. Et c'est tout le caractère contradictoire de l'amour chez Tenco. C'est un peu comme le « Ne me quitte pas » de Brel, quoi, qui est « Je voulais te faire pleurer, mais ne t'en va pas, je ne peux pas me passer de toi. » Et alors ça, c'était extrêmement nouveau.
Oui, mais ça dépeint peut-être aussi son caractère tourmenté, comme vous disiez tout
bien
à
sûr,
l'heure.
Hein. C'est, bien sûr.
C'est à la fois faire souffrir et aimer en même temps, quoi. C'est contradictoire, oui. Mais
c'était, des amours très tourmentés.
Oui.
Et qui est significatif parce que c'est le refus des amours roses de Sanremo. C'est en complète contradiction avec les chansons dominantes de l'époque. Et Angela sera une des chansons mal reçues,
oui,
qu'on n'aime pas passer à la raille, par exemple, et qui est considérée comme un peu scandaleuse. Enfin.
Il avait fait un disque double où il avait mis Angela. Et 4 ans, la maestra.
Cara maestra,
Cara
oui,
maestra
qu'on écoutera après. On va écouter Angela.
De ces chansons-là, il a dû couper et ne faire un disque seulement.
Oui.
Parce que la RAI, il ne passait pas.
Non, non. Allez, on écoute Angela.
Angela, Angela, Angelo mio. Io non credevo che questa sera sarebbe stato davvero un addio. Angela, credimi, io non volevo. Angela, Angela, angelo mio, quando t'ho detto che voglio andarmene, volevo solo vederti piangere, perché mi piace farti soffrire. Volevo farti piangere, vedere le tue lacrime, sentire che il tuo cuore e nelle mie. Angelo mio, ma tu stasera invece di piangere guardi il mio viso in un modo strano, come se fosse ormai lontano. Ti prego, Angela, no, non andartene. Non puoi lasciarmi qua giù da solo, non è possibile, e tutto a un tratto io possa perderti, perdere tutto. Oh, Angela, Angela. Io non credevo che questa sera sarebbe stato davvero un addio. Angela, credimi, io non volevo. Angela, Angela, Angelo mio. Angela, Angela, Angelo mio. Angela, Angela, Angelo mio. Angela, Angela.
Eh oui, il explique, en fait, il reflète d'une part la mentalité dominante, je veux t'avoir dans mes mains, je veux te dominer. Ah oui, mais tu...
Mais tu veux partir, finalement.
Et les femmes sont plus les mêmes.
Et oui.
Et c'est un traumatisme, c'est terrible. Elle va s'en aller, mais non, c'est parce que je voulais pas que tu t'en ailles. C'est extrêmement intéressant pour l'époque. Et puis donc, on disait sur le même disque et la même date, on a Cara Maestra qui dit « Chère maîtresse », c'est une lettre aux gens de son village. « Chère maîtresse, un jour tu m'apprenais que dans ce monde, nous sommes tous égaux. Mais quand entrait en classe le directeur, tu nous faisais mettre debout. Et quand entrait en classe... Le bidello, il bidello, c'est celui qui venait noter les absences, etc. Tu nous permettais de rester assis. Mon bon curé, tu disais que l'église est la maison des pauvres gens. Pourtant, tu as revêtu ton église de tentures d'or et de marbre coloré. Comment, maintenant, un pauvre qui entre peut-il se sentir comme chez lui. Chère mère, voilà. M-A-I-R-E, on m'a dit qu'un jour, tu criais aux gens « Vincere o morire », vaincre ou mourir. C'était le cri fasciste, vaincre ou mourir. Tu peux m'expliquer alors comment jamais, tu n'as jamais vaincu et pourtant tu n'es pas mort. et
à ta place.
Et à ta place, tant de gens sont morts qui ne voulaient ni vaincre, ni mourir, qui n'était pas fasciste. Alors là, c'est le type de chanson à contenu politique, en fait. Voilà. Il critique.
Oui. C'est pour ça que la RAI,
le système.
La RAI s'est refusé de la transmettre.
Oui. Il critique fondamentalement le système. Entre ce qu'on dit, ce qu'on enseigne à l'école, et puis la réalité. Ouais. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas de pauvreté de l'Église. Il n'y a pas d'abandon du fascisme de la part de l'ancien maire fasciste. On l'écoute, Cara Maestra.
Cara Maestra, un giorno mi insegnavi che a questo mondo noi siamo tutti uguali, ma quando entrava in classe il direttore, tu ci facevi alzare tutti in piedi, e quando entrava in classe il bidello, ci permettevi di restar seduti.
mio buon curato, dicevi che la chiesa è la casa dei poveri, della povera gente. Però hai rivestito la tua chiesa di tende d'oro e marmi colorati. Come può adesso un povero che entra sentirsi come fosse a casa sua? Egregio sindaco, mi hanno detto che un giorno tu gridavi alla gente, vincere o morire. Ora vorrei sapere come mai vinto non hai, eppure non sei morto, e al posto tuo è morta tanta gente che non voleva né vincere né morire.
Ah oui, mais c'est vrai qu'elle a été rejetée par la censure, par la commission de censure,
mais la censure
pendant même 2 ans. Hein.
Oui, la censure démocrate chrétienne était encore complètement dominante. Enfin, on s'en rend pas compte maintenant. On a la même censure maintenant, mais pratiquée autrement, c'est de l'autocensure. On oblige les auteurs à s'autocensurer. Et ils s'autocensurent beaucoup. S'ils veulent passer à la télé.
Sur les ondes.
Oui. Et heureusement, il y en a beaucoup qui ne veulent pas passer sur les ondes, qui s'en fichent et qui écrivent ce qu'ils ont envie d'écrire. C'est très bien. Alors, on va en écouter une troisième. Mi sono innamorato di te. C'est le grand succès international.
Mais c'est une des plus belles chansons qu'il a écrites. Hein.
Oh, oui. Et puis, musicalement, on n'a pas le temps de l'analyser, mais c'est une des plus intéressantes. Il y a une belle analyse faite par Giovanna Marini, une belle analyse musicale de cette chanson qui est très très intéressante. Elle dit « Je suis tombé amoureux de toi parce que je n'avais rien à faire. Le jour, je voulais rencontrer quelqu'un. La nuit, je voulais rêver quelque chose. Je suis tombé amoureux de toi parce que je ne pouvais plus rester seul. Le jour, je voulais parler de mes rêves. La nuit, parler d'amour. Et maintenant que j'aurai 1000 choses à faire, je sens mes rêves s'évanouir, mais je ne sais plus penser à rien d'autre qu'à toi. Je suis tombé amoureux de toi, et maintenant, je ne sais même pas, moi, quoi faire. Le jour, je me repens de t'avoir rencontré. La nuit, je viens te chercher. C'est terrible, cette chanson. C'est terrible. C'est une négation totale de l'amour qui était dit à San Remo. L'amour, mais ça n'existe pas, l'amour. Pourquoi je suis tombé amoureux de toi, il le dit avec ironie, parce que j'avais rien à faire.
Oui, parce qu'il y avait de l'amour en lui. C'est pas que, c'était une ironie.
L'amour n'existe pas. Il faut le faire, l'amour. Et si on ne le fait pas, on verra une chanson après terrible là-dessus.
Mais le voit après avec les dernières phrases qui dit « je reviens, je voulais quelqu'un pour parler le matin et quelqu'un pour rêver le soir. Ouais. » Mais à la fin, il dit « je viens te chercher le soir. »
Oui, et oui. Mais c'est on l'a pas bien entendu au départ, qu'il niait complètement l'existence de l'amour qui était chanté à San Remo. L'amour, ça n'existe pas, ça n'existe que si on le construit, que si on le fait, et c'est pour ça que je viens te chercher. C'est ce qu'il conclut dans sa chanson. Mais c'est terrible, c'est une critique, mais on s'en est pas rendu compte tout de suite. C'est une critique terrible de l'idéologie dominante de l'époque, c'est très révolutionnaire. On l'écoute.
Mi sono innamorato di te
perché non avevo niente da fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorato di te, perché non potevo più stare solo. Il giorno volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d'amore. Ed ora che avrei mille cose da fare, io sento i miei sogni svanire. So più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrato, notte ti vengo a cercare.
Une musique merveilleuse, hein, c'est... ça prend. Hein,
ah oui, puis une voix.
Mais... Ah oui, une voix chaude.
Mais... Ah oui, et puis alors, musicalement,
c'est nouveau.
Très nouveau, parce que les paroles commencent avant la musique. Ça se faisait jamais.
Ah oui.
Ils commencent à parler immédiatement.
Oui, oui.
Immédiatement après, la musique enchaîne.
Ah, oui.
Et ça, c'est complètement contraire aux habitudes de l'époque.
Ouais.
Et puis cette première phrase qui interpelle, quoi, qui choque un peu aussi. Je suis tombé amoureux de toi parce que je n'avais rien à faire. Ça s'est jamais dit dans une chanson. C'est voilà, on le dit pas. Enfin, ça se dit pas. Ça, je suis tombé amoureux de toi parce que j'avais rien à faire.
Non, mais vous rendez compte. Mais c'est ironique en même temps.
Oui.
C'est la critique. Les gens, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça veut dire je t'aime. Ça veut rien dire. Ou ça veut tout dire. En fait,
oui.
Et il rigole de ça, quoi.
Oui, oui. Non,
mais non. Il était sincère quand même. Il était sincère. Il disait, c'est.
Ah oui, mais là, il y a quand même beaucoup de sensualité, quoi.
Ah, c'est sûr.
Oui.
C'est sûr.
Et après, à la fin, il se reprend comme tous les tombeurs. Il se reprend, oui. Et il dit, je viens te chercher.
C'était pas vraiment un tombeur. Il avait beaucoup de filles qui étaient fans de lui. Et,
oh ben, il était beau garçon quand même.
Il était très beau garçon. Oui.
Il avait un style très. Oui, quand même. Hein,
Oui, c'est pour ça que Gino Paoli était
jaloux.
Était jaloux de lui parce qu'il était.
Mais oui, avec raison.
Il était vilain comme tout.
Mais avec raison, il était jaloux.
Il avait déjà plus de cheveux.
Ils sont pas parlé jusqu'à la fin.
Oui.
Non, mais c'est vrai que c'est un style très latino, quoi.
Oui. Il a eu celle qui a été la Valeria, qui a été la femme de sa vie.
Oui.
Et puis, cette aventure avec Dalida, dont il était apparemment aussi amoureux qu'elle, finalement.
Mais il a été toujours amoureux, cette personne, parce que...
Plus ou moins, quand même.
Oui, mais bon, oui. Il avait beaucoup de sensibilité. Donc,
il était, oui, extrêmement sensible et, ah oui. Mais il est... et très sensible à la beauté des... À la beauté des femmes.
Et surtout les femmes plus anciennes que lui.
Oh, pas seulement, non.
Oui.
Valeria, c'était pas.
Non, Valeria, c'était son amour.
C'était une jeune fille.
Oui, on parle des autres, comme Ornella Beraldini. C'est une riche personne. Il a prodigué tous les meilleurs disques de là. Ça a duré 2 ans.
Oui, mais il n'était pas. Il n'était pas tenu par la morale chrétienne dominante. Hein,
oui. C'est vrai qu'après, il revenait vers Valeria, que c'était son grand amour.
Et puis c'est à elle qu'il écrivait.
Il a écrit
ses
trois
tristesses.
Fois. Et la dernière lettre, il l'a écrit avant la soirée du festival.
Ouais, c'est vrai.
Là où il criait, c'est infect. C'est
et alors tout éclate dans la chanson de 1963. Et aussi, moi, oui. Alors celle-là, elle est explicite et terrible.
Et c'est ça.
Moi, oui, si tu n'avais pas épousé cet imbécile-là, moi, oui, je t'aurais fait vivre une vie de rêve qu'avec lui, tu ne peux pas vivre. Moi, oui, j'aurais fait disparaître de tes yeux l'ennui que lui ne sait pas voir, mais désormais, moi, oui, je t'aurais dit mon amour en cherchant les mots que lui ne sait pas trouver. Moi, oui, je t'aurais fait envier par tes amies elles-mêmes qui rient de lui maintenant, mais désormais. Moi, oui, je t'aurais fait rougir en te disant je t'aime comme lui ne sait pas le dire. Moi, oui, j'aurais voulu de toi cette voix chaude qui lui fait peur, mais désormais. Moi, oui, je t'aurais fait comprendre que la beauté du soir n'est pas seulement de sortir. Moi, oui, je t'aurais appris que l'on commence à vivre quand lui veut dormir. Mais désormais, moi, oui, je t'aurais appris quelque chose de l'amour qui, pour lui, est un péché. Moi, oui, je t'aurais fait savoir combien de choses tu as qui me rendent fou, mais désormais. Et alors, quand on compare cette chanson à des chansons contemporaines, qui apparemment sont aussi révolutionnaires, je ne sais pas, le 24 000 baisers de Celentano, par exemple, je te donnerais 24 000 baisers à la minute, ou les chansons de Rita Pavone, on s'aperçoit que, en fait, la censure des chansons de Celentano ne gênait pas la démocratie chrétienne. Celentano obtient la deuxième place au Festival de San Remo avec 24 000 baci. Et Rita Pavone est exaltée. Mais
c'était pas aussi sensuel, quoi. Il n'y avait pas ce message de
absolument.
Sensualité.
C'est là aussi, elle a été censurée.
Elle a été censurée.
Oui, mais Celentano et Rita Pavone
n'étaient
pas censurés.
Non.
N'étaient
mais
pas censurés.
Mais il n'y avait pas le même message.
Là,
pas érotique. Il y a quand même un message érotique.
Il y a un message de sexualité totale. Pour lui, c'est un péché. Il fait ça pour avoir des enfants. Mais c'est un péché, c'est pas bien. Hein, l'amour se fait. Et si on le fait, pour lui c'est un péché. Moi je t'aurais appris que c'est pas un péché. Et que c'est ça, véritablement, l'amour et que l'intimité des amants est quelque chose d'essentiel. Et c'est totalement contradictoire avec la morale chrétienne dominante de l'époque.
Et oui.
On va l'écouter. Et aussi. 63.
Io sì che t'avrei fatto vivere una vita di sogni che con lui non puoi vivere. Io sì avrei fatto sparire dai tuoi occhi la noia che lui non sa vedere. Ma ormai io sì, t'avrei detto il mio amore cercando le parole che lui non sa trovare. Io sì,
t'avrei fatta invidiare dalle stesse tue amiche che di lui ora ridono. Ma ormai sì, t'avrei fatta arrossire dicendoti ti amo come lui non sa dire. Io sì, da te avrei voluto quella tua voce calda che a lui fa paura. Ma ormai sì, t'avrei fatto capire che il bello della sera non è soltanto uscire. Io sì, io t'avrei insegnato che si comincia a vivere quando lui vuol dormire. Ma ormai che t'avrei insegnato qualcosa dell'amore che per lui è peccato. Io sì, t'avrei fatto sapere quante cose tu hai che mi fanno impazzire. Ma
et c'est une chanson sur laquelle il a beaucoup travaillé. Il y en a, on en a plusieurs versions qui disent la même chose, mais sous des formes différentes. C'est intéressant parce que c'est vraiment l'affirmation que l'amour c'est autre chose que ce que dit la chanson de Sanremo.
Oui.
C'est à partir de là qu'on s'aperçoit qu'il a révolutionné le contenu de la chanson. Et puis la musique est intéressante aussi.
Ah ben oui, parce que c'était lui qui composait les musiques en plus.
Oui.
Celle-là, oui, pas toujours, il est arrivé, il est arrivé de travailler avec
Mongol,
Reverberi, non, comme musicien,
Reverberi
ou Donida, mais la majeure partie des chansons, c'était lui, il faisait même les enregistrements, les arrangements souvent.
Mm-hmm.
Alors, on arrive à une autre chanson qui est un peu plus tardive, 65, Vedrai, Vedrai, qui est intéressante parce que c'est la réflexion sur la différence entre la vie qu'on rêve, qu'on voudrait vivre, et puis celle qu'on est obligé de vivre.
Lui voulait vivre, il comptait de vivre comme ça, mais à un moment donné, il a fait un point. Il a vu qu'il a déçu, selon lui, il avait déçu sa mère. Et la chanson, c'est ça. Et il pense de l'avoir déçu parce que les résultats ne venaient pas. Et alors...
Oui, entre l'idéal et qu'il voulait atteindre et la réalité.
Voilà, il dit, j'ai promis quelque chose que je n'ai pas pu donner. Et c'est pour ça. Et dit aussi, ces gens-là qui m'aiment, disons, au lieu de je mériterais être frappé pour ce que j'ai fait, mais non, je reçois toujours des caresses.
La part de sa mère, mais bon.
De sa mère.
Oui.
Et oui, il dit quand le soir je reviens à la maison, je n'ai même pas envie de parler. Ne me regarde pas avec cette tendresse comme si j'étais un enfant qui rentre déçu. Oui, je sais que ce n'est pas certainement la vie que j'ai rêvée un jour pour nous. Tu verras que ça changera. Peut-être ce ne sera pas demain. Mais un beau jour, ça changera, tu verras. Je ne suis pas fini, tu sais. Je ne sais pas te dire comment et quand, mais tu verras que ça changera. Je préférerais savoir que tu pleures, que tu me reproches de t'avoir déçu, de ne pas te voir toujours aussi douce, accepter de moi tout ce qui vient. Ça me fait, ça me désespère de penser ce que je pense de toi me désespère, et de moi que je ne sais pas, que je ne sache pas te donner plus. Tu verras que ça changera. On l'écoute, elle est de 65.
Quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai. Non son finito, sai, non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà. Preferirei sapere che piangi, che mi rimproveri di averti delusa e non vederti sempre così dolce, accettare da me tutto quello che viene. Mi fa disperare il pensiero di te e di me che non so darti di più. Vedrai. Vedrai che cambierà, forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Non so dirti come e quando, ma un bel giorno cambierà.
Et entre parenthèses, c'est une des chansons dont Tenco a écrit la traduction française.
Ouais.
Il l'a traduite et on ne sait pas, on n'a pas d'enregistrement en français, mais il l'a traduite en français.
Il a eu beaucoup de chanteurs, d'artistes qui sont chantés cette chanson-là. Et ça a été aussi. On a eu Renato Zero qui l'a
interprété.
Ah oui, il y a des quantités. Oui, mais c'est...
La version de Mina, elle est fabuleuse.
Mina. Après, elle a fait fabuleuse. La cover de toutes les chansons
de Tenco,
il a fait la cover. Yeah. Elle a chanté pratiquement toutes.
Mm-hmm. Eh oui.
Alors on arrive en 66, où on va écouter cette chanson, Ognuno è libero, qui est une chanson de protestation directe contre les réactionnaires qui critiquent sa tenue, qui critiquent ses cheveux, qui critiquent son mode de vie, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange pour nous regarder tellement ? Peut-être parce que nous ne sommes pas bien habillés, peignés comme vous. Ben, si vous n'aimez pas comme nous sommes, il ne vous reste qu'à vous retourner de l'autre côté et ne pas faire attention
à nous.
Chacun est libre de faire ce qui lui convient. D'autant plus que nous ne cherchons personne. Nous n'avons jamais rêvé de convaincre les autres de vivre comme nous. Ce que font les gens nous intéresse peu. Même si quelqu'un se promenait avec un chapeau haute forme sur la tête, pour nous ça va très bien comme ça, chacun est libre de faire ce qui lui convient. Et au contraire, parmi vous, il y en a plus d'un qui est bien habillé, bien peigné, et qui n'est pas une personne bien. Et ce quelqu'un s'est mis en tête que les gens, de bien ou mal, doivent faire ce qu'il veut lui, mais chacun est libre de faire ce qui lui convient. C'est l'affirmation très, très, très libertaire qui exprime bien ce que pensait Tenco du monde autour de lui. On l'écoute. Ognuno è libero.
Cosa c'è di strano? Perché noi non siamo vestiti bene, pettinati come voi. Beh, se non vi piace così come siamo, non vi resta che voltarvi dall'altra parte e non far caso a noi. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Tanto più che noi non cerchiamo nessuno. Non ci siamo mai sognati di convincere gli altri a vivere come noi. Quel che fa la gente interessa poco. Se anche uno andasse in giro col cilindro in testa, a noi sta bene così. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Invece tra voi questo qualcuno si è messo in testa che la gente con le buone o con le cattive deve fare quel che vuole lui. Ma ognuno è libero di fare quello che gli va. Ognuno è libero di fare quello che gli va.
Voilà, et puis sur cette émission de Couleur FM, on a encore le temps d'écouter une des chansons qui est les plus écoutées, les plus populaires, les plus aimées de Tenco, c'est Lontano. Lontano. Il en a chanté d'ailleurs d'autres versions, dont une version espagnole par exemple. Il avait fait une traduction en espagnol et il l'a chantée en espagnol. Et loin, loin dans le temps, quelque chose dans les yeux d'un autre te fera repenser à mes yeux, à ces yeux qui t'aimaient tant. Et loin, loin dans le monde, dans un sourire sur les lèvres d'un autre, tu trouveras ma timidité pour laquelle tu te moquais un peu de moi. et loin, loin dans le temps, l'expression d'un visage, par hasard, te fera souvenir de mon visage, l'air triste que tu aimais tant. Et loin, loin dans le monde, un soir, tu seras avec un autre, et tout d'un coup, qui sait comment et pourquoi, tu te trouveras en train de lui parler de moi, d'un amour désormais.
Trop lointain.
Oui.
On l'écoute.
Eh bien, c'est bien. Ces chansons-là, excusez-moi si... Hein, ces chansons-là, il a participé à le disco per l'estate du 66. Il est arrivé troisième, mais il n'a pas eu un grand succès. Seulement que ce disque-là, c'est celle qu'il a vendu plus.
Après.
36 000... après. 36 000 copies.
Oh oui, et puis après, il s'est vendu. Mmh. On en reparlera. On l'écoute.
È lontano, lontano nel tempo. Qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che t'amavano tanto. E lontano, lontano sorriso sulle labbra di un altro, troverai quella mia timidezza per cui tu mi prendevi un po' in giro. E lontano, lontano nel mondo, una sera sarai con un altro, e ad un tratto chissà come e perché ti troverai.
Voilà, on reviendra sur Tenko dans notre prochaine émission. On parlera aussi d'une chose qui est née de la mort de Tenko, c'est le club Tenko de San Remo, qui existe toujours et qui a eu une très grande importance dans l'histoire de la chanson italienne. Et puis sur cette chanson, Lontano, Lontano, qui est vraiment une de ces chansons les plus intéressantes et les plus significatives de ce que voulait dire Luigi Tenco. Voilà, bonne écoute, parce que c'est, en plus, Tenco est un chanteur dont on comprend la moindre de ses paroles.
Oui.
Ce qui était important pour lui, c'était le texte, quoi.
C'est vrai. C'est des textes très abordables, quoi, très faciles. Hein,
c'était des textes dans une langue
courante.
Courante. Mmh, oui. Mais en même temps, il veut que... Ils sont extrêmement travaillés, si on avait le temps d'analyser la métrique, tout, ça serait, on verrait que c'est des chansons très très travaillées, et il les travaillait beaucoup. Mais en même temps, il faut qu'aucune parole ne nous échappe. Mmh. C'est ça qui était important.
C'est vrai.
Voilà, bonne écoute.
Oui.
Sono solo canzonette, ce ne sont que des chansonnettes.
Une émission de l'INIS sur l'histoire de la chanson italienne, présentée par
Jean Guichard,
Françoise Gibaja,
Angelo Sollima.